Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
In 1994, the world is controlled by one power.
RTL.
Jusqu'à 22h.
The Apple is success.
La curiosité est un vilain défaut.
The Apple brings you everything.
What about happiness?
20h, 22h.
The Apple is the experience.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous avez forcément eu en main l'un des produits qu'il a créé, smartphone, tablette, ordinateur portable. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, est mort il y a 3 ans. Et son histoire nous fascine toujours autant. Nos invités vont nous raconter, nous expliquer pourquoi. David Brunat, bonsoir. Vous êtes patron d'une société de communication. Antoine Dubuquois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en com, digital et réseaux sociaux. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci
pourquoi
vous.
Steve Jobs est-il devenu un mythe, David Brunat?
Ah, il est devenu un mythe très tôt et très jeune. Il a créé sa société à un âge encore très précoce. Il avait une vingtaine d'années, il avait 21 ans, il était inconnu, il n'avait pas fait d'études, il ne connaissait pas grand monde. C'est un enfant de la Silicon Valley et il lance une activité d'ordinateur à la personne dans le garage de ses parents avec un copain. Et contre toute attente, ça va devenir le groupe qui a la plus grosse valorisation boursière de l'histoire du capitalisme américain. La marque, une des marques préférées des Américains, des Occidentaux, du monde entier, des consommateurs de Chine et d'ailleurs. Et il va créer des produits qui vont devenir de véritables icônes parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont bien conçus, parce qu'ils sont performants et parce que il va créer la conviction que de les posséder vous fait accéder à un niveau d'expertise, à un niveau, je dirais, d'intelligence et de savoir dont vous êtes dépourvu si vous ne les avez
si
pas.
Vous ne faites,
génie
faites,
de marketing.
Faites, si vous ne faites pas partie de cette grande famille Apple, vous parliez du garage dans lequel il a lancé la marque, créé la marque. C'est un monument historique, c'est ça, aujourd'hui, Antoine Dubuquois? On peut le visiter, c'est ça?
Je pense qu'on peut le visiter, en effet. Alors, ça fait partie... Vous savez, l'histoire de l'Amérique, elle est encore très récente. Quoi. C'est moins de 300 ans. Et donc, effectivement, tout ce qui constitue la construction de cette mythologie, ça en fait partie. Et effectivement, le garage donc de la famille Jobs, là où a été créé Apple, ça a été classé monument historique. Au même titre, d'ailleurs, que le garage où a été créé Hewlett-Packard il y a quelques années auparavant. Mais au même titre, il y a Tombstone ou Monument Valley.
L'Amérique se crée son histoire, en
exactement.
Fait. Les réactions lors de la mort de Steve Jobs, c'était il y a un peu plus de 3 ans, le 5 octobre 2011. Son décès à la radio, partout à la télévision, il est annoncé comme celui d'un chef d'État. Écoutez.
Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, est décédé. Il avait 56 ans, atteint d'un cancer. Il avait annoncé sa démission le 24 août dernier.
Ouais, je pense que pour Apple, c'est pas dramatique parce qu'apparemment, il a laissé une feuille de route pour les 10 prochaines années.
Celui qui va pouvoir le remplacer, il n'est pas encore né.
Le siège social d'Apple à Cupertino, en Californie, ainsi que la plupart des Apple Store dans le monde, se sont transformés en quelques heures en véritable mausolée.
Cette légende Steve Jobs et la légende Apple, tout cela est évidemment imbriqué, ça passe par les valeurs, vous le disiez tout à l'heure. David Brunat, c'est quoi les valeurs de la marque?
Les valeurs de la marque, c'est l'esthétique, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est l'originalité, Think Different, qui est un des grands mantras.
C'était une campagne de pub même.
C'est une campagne de pub qui a eu un grand succès, qui est assez géniale, et c'est l'audace de penser différemment, de penser par toi-même, avec l'aide de ces produits que je confectionne à l'attention de ces fameux Happy Few.
C'était quoi déjà la campagne de pub Think Different?
Alors, c'est une campagne qui a été lancée dans C'est une campagne qui a été lancée dans les années 90 avec des têtes d'affiche, effectivement, des mythes, puisque c'est devenu un mythe, mais qui lui-même a construit, a forgé sa propre légende sur des mythes.
Donc il y avait qui, moi, dans ma mémoire? Il y avait Einstein, la Calas.
Einstein, par exemple. Oui. Il y a la Calas. Il y a les mythes de...
Il y a
Miles Davis.
John Lennon.
Des mythes de la musique, des mythes du rock, des mythes de la science. Très peu de mythes sportifs, bizarrement. C'est ce qu'on dit aussi dans le livre. C'est un homme qui ne s'intéresse pas du tout au sport. Et la seule icône sportive qui a été intégrée dans la campagne Think Different, c'est un boxeur très célèbre, Mohamed Ali. Mais qu'il a été... plus en sa qualité de représentant de la défense des droits civiques que de puncher sur les rings, à proprement parler.
Antoine Dubuquois, aujourd'hui, on sait que les patrons de Google rachète à tour de bras des startups, notamment en matière de santé, de nanotechnologie. Ils rêvent de vaincre la mort et de se construire pour eux-mêmes, peut-être pour nous, en tout cas pour ceux qui ont beaucoup d'argent, une hyper longévité, une mortalité. À quoi il rêvait, Steve Jobs? Il voulait changer nos vies, lui aussi?
Oui, il voulait changer nos vies. En fait, il voulait un peu réenchanter nos vies. C'est-à-dire que dire, voilà, grâce à mes produits, grâce aux produits Apple, en fait, finalement, votre vie sera meilleure, votre vie sera différente. Et donc, ça passait par énormément de simplicité. Là aussi, ça a été une espèce de... C'est tout le paradoxe du personnage qui, humainement, était plutôt assez difficile à vivre.
Alors ouais, ça m'intéresse, on en parlera tout à l'heure.
On en parlera. Mais effectivement, il s'est toujours mis, en fait, à la place de l'utilisateur, en disant, finalement, qu'est-ce qui va faire que, par exemple, l'utilisateur d'un téléphone... d'un iPhone, parce que finalement, au moment où il ouvre la boîte, où il le déballe, le truc est opérationnel tout de suite, et puis l'apprentissage est extrêmement simple. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a imposé à ses ingénieurs, par exemple, qu'il n'y ait qu'un seul bouton sur l'iPhone, pour que ça soit le plus simple possible. Le Mac, vous ouvrez la boîte, tout est déjà opérationnel. Et ça, c'est effectivement la magie. La magie, d'ailleurs, il le disait dans tous ses keynotes, c'est the magic inside. On ne s'intéresse pas à la technologie. Il faut juste que ça soit... C'est beau, c'est simple. Et surtout, on ne l'ouvre pas.
Et ça, pour le coup, c'était plutôt réussi. La légende Steve Jobs, pourtant, vous l'avez un tout petit peu évoqué. La liste de ses défauts pourrait faire fuir le plus fidèle de ses fans. On va les égrener dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
The apple is the forbidden fruit.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
The apple.
Et ce soir, on est curieux de comprendre la légende qui entoure le fondateur d'Apple, la marque la pomme un petit peu croquée. Et évidemment, avec nos invités David Bruna et Antoine Dubuquois qui publient Steve Jobs, figure mythique, c'est aux éditions Les Belles Lettres. Je voudrais qu'on parle du côté gourou du personnage. Dans sa vie perso déjà, Antoine Dubuquois, il faisait quoi, yoga
Oui, il était très versé dans toutes les sciences indiennes, etc. Enfin, c'est un enfant des 60s, donc quelque part, bon, voilà, il a vécu en Californie, il a été hippie, donc voilà, en termes
touché à quelques drogues aussi.
Oui, il a touché à quelques drogues, mais bon, il était dans cette espèce de vague de spiritualité indienne, c'était à la mode, il a fait son trip en Inde. Bon, là-dessus, rien vraiment de particulier. En revanche, c'est plus lié à sa propre personnalité. Il y a quelque chose de très américain dans cette capacité de conviction, d'être porté par un rêve, une vision, et surtout d'essayer de vendre cette vision et de convaincre son entourage qu'il a raison et qu'il faut le suivre. Et c'est en ça, en fait, qu'il devient très rapidement une espèce de leader charismatique. Il embarque d'abord ses associés, Wozniak et les autres, dans cette aventure. Par exemple, il convainc Steve Wozniak, qui travaillait chez HP, donc il est vraiment son premier comparse, en fait, cofondateur d'Apple. Il dit, allez, lâche Hewlett-Packard, viens avec moi, on va créer une boîte.
Donc,
va...
dans le garage de la famille Jobs, il y a Steve Wozniak aussi, c'est ça.
Voilà. Et puis même, quand il convainc, par exemple, son John Sculley, qui bossait chez Pepsi, de le rejoindre pour changer le monde, voilà. Allez, tu vas pas vendre de l'eau sucrée toute ta vie, viens changer le monde avec moi. Et l'autre, effectivement, en plus, c'est John Sculley, c'est celui qui virera d'ailleurs Steve Jobs par la suite. Donc là, il y a espèce de leadership, et qu'on voit d'ailleurs dans ses keynotes, le côté télévangéliste, le côté prêcheur.
Alors les keynotes, ce sont ces conférences de lancement d'un nouveau produit. On évoquera ce génie de la com et du marketing qui était Steve Jobs. Mais d'abord, je voudrais quand même aussi dresser un portrait dans votre livre, moi, qui m'a surpris. Il était aussi assez désagréable, quoi, dans le boulot. C'est pas facile de travailler avec lui, c'est ça?
Alors ça, on le savait, c'est pas une révélation. Ouais. Il y a des ouvrages qui sont parus avant le nôtre.
Oui, mais bon, moi, moi, si vous voulez, j'étais dans l'image, justement, du génie, du télévangéliste. Ouais. Et cet aspect-là avait été relativement peu médiatisé, à mon avis.
L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est un génie, mais c'est un génie difficile qui a sa... qui est un génie lumineux, parce qu'effectivement, il apporte la parole, il fonde une religion profane dans laquelle des millions de gens vont se reconnaître, mais c'est aussi un génie qui a sa part d'ombre.
Alors c'est quoi ses défauts principaux?
Ah bah, son premier défaut, c'est que c'est un grand paranoïaque, il est d'une méfiance, on va dire, clinique, il est d'une exigence absolue. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, hein, dans le fait d'être exigeant, et c'est quelqu'un qui va se servir des gens, mais à bon escient aussi, puisqu'il va faire en sorte qu'ils produisent le meilleur d'eux-mêmes. Et ceux qui ont travaillé avec lui ont fini sur les rotules, mais se félicitent rétrospectivement d'avoir été avec lui, parce que c'est les meilleures années de leur vie, et ils disent avec Steve, on allait au-delà de nos limites. Mmh. Donc c'est très ambivalent. C'est un homme d'une grande brutalité.
Steve Jobs,
qui
brutal.
Est convaincu. On évoquait tout à l'heure la légende et son objectif dans la vie. Lui, son premier objectif, c'est de laisser une trace. Et il a réussi son coup, puisqu'on se souvient de lui. Et
Steve
les générations
Jobs, mégalo.
Futures,
je suis en train de faire la liste des défauts, là.
Mégalo.
Totalement.
Mégalo. Mais un mégalo qui était à la hauteur de ses ambitions. C'est quelqu'un pour qui il y avait deux catégories d'individus. Enfin, une troisième aussi. Il y avait les génies. À son instar, une petite élite qui avait été choisie par le destin, et puis il y avait les connards, comme il le disait lui-même dans des termes très crus. Puis la troisième catégorie, c'était les consommateurs d'Apple, naturellement, qui eux avaient cette faculté à passer d'une catégorie à l'autre.
Bien sûr.
Voilà,
parce qu'ils ne pouvaient pas faire le tri. Antoine Dubuquois, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, de la communication numérique. Cette image-là, cette série d'adjectifs négatifs, elle ne cadre pas avec le côté cool, branché de l'entreprise Apple. Comment ça s'explique? Parce qu'il n'y a pas eu de scandale? Parce qu'il n'y a pas eu de salariés qui sont partis en claquant la porte pour dire ce management est insupportable? Comment ça s'explique?
Bon, il y en a qui sont partis, mais en fait, je dirais que la force de la marque, c'est d'avoir été aussi, avoir eu aussi des produits incroyables. C'est aussi ça, c'est la force de Joe, d'avoir réussi à convaincre en fait le monde entier de sa vision avec des images très fortes. Par exemple, quand il lance le Mac en 1984, il fait toute sa campagne sur une espèce de dénonciation de Big Brother. Mmh. Il y a un superbe film publicitaire de Ridley Scott à l'époque.
Ouais.
Mythique.
Alors tiens, je vous interromps, on a un court extrait de cette publicité qui date de 1984, donc vous venez de nous le dire, réalisé par Ridley Scott et diffusé évidemment au moment de plus forte audience
Super Bowl,
aux États-Unis pendant la finale du Super Bowl. Court extrait.
Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Alors bon, c'est la version sonore, évidemment. Oui. Il faut visualiser la publicité. Ça dit quoi? Ça montre quoi?
Mais ça, c'est un coup de génie. C'est en fait d'arriver à vendre l'idée que Apple est une marque libératoire. C'est qu'en gros, en achetant Apple, vous achetez de l'anticonformisme, vous libérez en fait, et à l'époque c'est le grand géant malfaisant qui est IBM, voilà, qui est l'informatique normative, c'est l'informatique des grosses boîtes, c'est les hommes en gris. Là, c'est une boîte californienne. D'ailleurs, son logo, c'est une pomme arc-en-ciel. C'est, voilà, c'est cool, c'est californien, c'est tout un style de vie que Jobs vend aux Américains. Et on dit, voilà, vous achetez un Mac, c'est génial, finalement, 1984, en fait, ça ne sera pas ce que vous croyez. Le paradoxe, c'est qu'en fait, au final, il devient Big Brother lui-même.
Oui, c'est ça, parce que 1984, c'est un livre de George Orwell qui dénonce la société d'hyper-contrôle avec une télévision dans le salon de toutes les familles qui vérifie ce qui se passe à l'intérieur. On en est là aujourd'hui,
On en est là, absolument. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est qu'en fait, la force, c'est d'avoir créé une marque qui est globalement totalement enfermante. C'est-à-dire quand on adhère au produit Apple, et ça, c'est la vision. C'est ça le paradoxe de Jobs. C'est à la fois, je suis un mec super cool, et puis d'un autre côté, je mets en place un système qui fait que de toute façon, plus on avance, moins je pourrais me passer des produits Apple. Que ce soit, j'ai ma musique sur iTunes, j'ai l'iPhone, j'ai le Mac, tout ça communique, c'est génial. Et j'ai même le cloud, le nuage, qui me permet d'avoir en plus toutes mes données accessibles avec tous mes objets techno venant de chez Apple.
C'est un enfermement qui est anodin, hein. C'est une servitude volontaire.
Ben oui.
Les gens, ils vont dépenser un peu d'argent, mais c'est pas un esclavage, hein. Faut aussi raison garder.
Ouais. Bon, effectivement, j'imagine que ce qu'on vient de dire, ça a dû faire réagir pas mal de fans d'Apple. Vous êtes fan d'Apple, le portrait qu'on vient de faire de Steve Jobs vous agace. N'hésitez pas à nous appeler au 3210 sur rtl.fr, on attend vos réactions, ou sur Twitter avec le hashtag.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Steve Jobs, c'est l'histoire d'une réussite à l'américaine. À 21 ans, il abandonne l'université. Il monte sa boîte avec un associé dans le garage de ses parents. Il invente alors le Macintosh et devient le père de l'informatique grand public.
Jusqu'à 22h.
L'iPod, l'iPhone, l'iPad, tout ça, c'est lui, le fruit de l'imagination d'un gourou de l'informatique aux centaines de millions d'adeptes.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Steve Jobs, un homme qui a changé nos vies, on en parle ce soir dans la curiosité avec David Bruna, patron d'une société de communication, et Antoine Dubuquois, qui est expert en com digital et réseaux sociaux. Et vous publiez tous les deux Steve Jobs, figure mythique aux éditions Les Belles Lettres. David Bruna, c'était l'homme des contre-pieds, Steve Jobs?
Alors c'était l'homme des contre-pieds, pas au sens sportif du terme, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça l'intéressait pas.
C'était pas un grand sportif.
Les feintes de corps sur les pelouses, c'est pas du tout son truc, ça l'agace terriblement. On a parlé du Super Bowl, effectivement le Super Bowl 1984, c'est l'occasion de cette pub absolument mythique, qui a 30 ans d'existence, qu'on peut revoir en boucle sur YouTube ou ailleurs, qui est un véritable chef-d'œuvre, qui a été couverte de prix et qui est considérée comme la meilleure publicité de tous les temps, puisque la légende, le mythe de Jobs, c'est aussi construit grâce à la publicité. Ouais. Voilà, la publicité autour des produits, la publicité autour de lui-même.
Alors, c'est l'homme des contre-pieds, parce que il prend le milieu de l'informatique un peu à rebrousse-poil.
Des renversements, des révolutions coperniciennes, comme disent les gens un peu savants ou un peu pédants. Mais là, comme avec la comète qui se pose, etc., on peut faire des métaphores astronomiques. C'est quelqu'un qui a pas de bagage scientifique. Or, pour créer des produits, des smartphones qui sont bourrés d'algorithmes, qui sont bourrés de choses savantes, il faut des scientifiques. Il n'a pas de bagage, il n'a pas de formation, mais il sait, il est très intuitif et il sait ce que le consommateur attend et il sait faire travailler les scientifiques, les ingénieurs. Et mieux encore, il sait les faire travailler avec les designers, puisque un de ses grands objectifs, un de ses grands rêves qu'il réalise, c'est de mettre de la beauté dans des appareils qui jusque-là n'en avaient pas. Les ordinateurs dans les années 70-80, c'est des grosses machines, toutes laides, grises, sans aucun charme. Et lui va mettre un supplément d'âme dans ces machines. Pour ça, il faut des gens qui créent de la beauté, c'est-à-dire des designers, des créateurs de beauté et des ingénieurs pour que ça fonctionne à peu près correctement. Et il va réussir à les faire dialoguer et mieux encore à faire prendre le pas par les designers sur les ingénieurs.
C'est-à-dire que ceux qui décident,
faut d'abord que ce soit beau, et ensuite on va concevoir des produits qui sont beaux et on va faire en sorte qu'ils fonctionnent correctement, mais selon un certain modèle formel.
D'accord.
Donc c'est une véritable révolution.
Antoine, du coup, c'était l'inverse dans les autres sociétés informatiques, c'est-à-dire les ingénieurs décidaient et les designers, ils n'existaient pas ou ils s'adaptaient, quoi.
Oui,
c'est ça,
c'était une espèce de science un petit peu occulte, c'est-à-dire que l'informatique à la IBM, vous savez, c'est les gros systèmes en entreprise, c'est des entreprises où le directeur des services informatiques a tous les pouvoirs. Il doit, lui aussi, en fait, une espèce de gourou dans son genre. Sauf que là, la force de Jobs, en fait, et de la force d'Apple, ça a été de mettre ces produits, en fait, à destination du grand public. De tout un chacun, et de dire, d'avoir cette vision dans les années 80, c'est finalement chaque foyer aura un ordinateur, une espèce de truc complètement révolutionnaire. Et en fait, après ces évolutions, elles ont ces ruptures en fait technologiques, elles ont motivé en fait tous les lancements de produits qui ont suivi. Le téléphone, c'est quand il présente l'iPhone, il dit je révolutionne le téléphone, je réinvente le téléphone. Et là, le public en délire, applaudit. Et en fait, c'est ça aussi qui est assez génial.
Donc, c'est d'abord un bonimenteur, en fait.
Bien sûr. Il y a une grande cohérence. Vous parlez des contre-pieds. En fait, c'est à la fois prendre le marché, prendre les gens, prendre l'industrie à contre-pied, toujours être là où on l'attend pas. Ça, il est très fort. Et après, surtout, c'est de raconter une espèce d'histoire. C'est pour ça que quand on a parlé du mythe, c'est finalement il y a toute une continuité dans la saga Apple. Ça a toujours été, et là-dessus Jobs dans toutes ses conférences l'a rappelé, toujours rappelé en fait ce qu'ils avaient fait avant. La dernière révolution, c'était quoi? Voilà ce qu'on a fait. On a réinventé le Mac. Après, on réinvente le téléphone. Après, et c'est évidemment toujours. Alors, c'est à l'américaine, c'est le côté, c'est génial. Donc, c'est awesome, phenomenal, c'est magique.
Il y a l'art des mots.
Voilà, une façon de vendre
ça,
le truc.
Avec des mots très forts.
Ouais, mais c'est comme le téléachat.
Il y a la même, Steve Jobs, maître du téléachat.
Mais oui, absolument, c'est la même force, c'est la même approche rhétorique.
C'est pas de la camelote. Hein.
Ah non.
Ici, c'est du téléachat qui est à la hauteur des promesses.
Ce qui fait la différence, effectivement.
Commercial, ce qui, dans certains cas, fait la différence.
L'argent, c'était une motivation chez Steve Jobs?
C'est pas sa motivation première. C'est quelqu'un qui n'est pas insensible à l'argent, qui est devenu immensément riche à un âge encore très jeune, à 25 ans, 26 ans, il est multimillionnaire. Il devient milliardaire, ça on ne le sait pas, grâce à une autre entreprise que Apple, une société qu'il a financée, qu'il a développée, qui s'appelle Pixar, qui est bien connue. Les studios d'animation Pixar.
Toy Story, premier film de Pixar.
C'est lui qui est à l'origine avec les scénaristes de Toy Story, qui a révolutionné les dessins animés.
Mais il n'est plus chez Apple à l'époque.
Non. Il est.
Il faut le dire, il se fait virer d'Apple. Alors,
très brutalement.
À quel moment?
Il se fait virer en fait.
En 1985. Voilà. En fait, juste après le lancement du Mac.
Et par un type qu'il a recruté. Par un type qu'il a recruté, par John Sculley, qui l'a fait rêver. Et à la fin, en fait. John Sculley vient de d'une entreprise américaine, il vient de chez Pepsi Cola, il est extrêmement, je dirais, normé, et il essaie d'apporter un petit peu de morve, alors que Jobs, lui, est complètement anarchique, c'est un anti-modèle de management. Jobs, c'est un leader, c'est un chef de bande, mais c'est pas du tout, vous savez, l'entreprise organisée en business unit, c'est extrêmement cadré.
Oui, l'une de ses devises, c'était stay hungry, stay foolish. Ça veut dire.
Il faut garder cette folie, être excentrique, un peu extravagant et affamé, etc. Et donc l'argent, il devient très riche grâce à Pixar, qui revend plus tard au studio Disney dans les années 2000. Donc il est déjà revenu chez Apple depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui, quand il revient chez Apple, il revient en 1997-1998, pendant deux ans, il ne va pas gagner un sou. Il est rémunéré, il est salarié $1, symboliquement. Et puis, on lui propose un peu de gras, des stock options, et on lui propose une somme assez rondelette. Et il va dire, OK, mais je veux plus. Et il demande $15 millions pour le prix des services rendus. C'est pas quelqu'un qui a une cupidité monétaire... qui est comparable à celle de certains traders. C'est pas son moteur. En même temps, la réussite aux États-Unis se mesure aussi à ce qu'on gagne.
Oui, au nombre de millions de dollars.
Au nombre de millions, voire de milliards de dollars, puisqu'il est mort. Il est mort milliardaire. C'était une des plus grandes fortunes du monde, et qui est restée d'ailleurs dans le giron de la famille.
Mais Antoine Dubuquoy, il y avait des signes extérieurs de richesse. Je sais pas, des yachts, des alors, jets privés.
Le yacht, il a failli effectivement. Il a demandé à Philip Stark de designer un yacht. Malheureusement, il est mort avant. En fait, non, son seul luxe, ça a été un jet, effectivement, qu'il a fait aménager spécialement. Mais ça a été vraiment, je dirais, quasiment sur la fin, en fait. Il était connu pour s'acheter des villas immenses, d'être incapable de les meubler. Il avait toujours sa Mercedes, effectivement, sa Mercedes 300, qui garait d'ailleurs systématiquement sur les places handicapées chez Apple. C'est un passage très paradoxal. À la fois, effectivement, pas forcément.
Ça, c'est pas la cool attitude de la marque, ça.
Non, pas du tout.
Je m'en fous.
C'est
moi d'abord.
À la fois, je veux le bien-être de l'humanité, mais humainement parlant, je m'en fous. C'est quelqu'un qui n'était pas très généreux, par exemple. La grande différence avec Bill Gates, qui, tout à coup, Bill Gates, depuis quelques années, a créé une fondation, la dépense.
Présidée par sa femme.
Voilà, présidée par sa femme. Mais maintenant, il dépense des centaines de millions de dollars pour éradiquer la faim et la maladie en Afrique. La Jobs n'a jamais filé un centime aux charities.
Il n'était pas philanthrope.
Il n'a pas la culture de la philanthropie. Ouais. L'ironie du sort, sa veuve, elle, est une des grandes philanthropes américaines. Elle donne des millions pour des bonnes causes.
Mais c'est un sauveur d'entreprise, parce que quand il revient chez Apple, on est en quoi? En 97, c'est ça?
Oui.
Donc il y a eu une parenthèse d'une dizaine d'années, d'une douzaine d'années.
Oui.
La marque, elle est dans quel état?
Pitoyable. La marque, elle est moribonde, les produits ne se vendent pas, les équipes sont dispersées sur des dizaines de projets, et la marque ne se vend plus.
Elle ne fait plus rêver.
Elle s'est normée, elle est devenue finalement une entreprise informatique comme une autre. Et en fait, quand Jobs revient, c'est pour ça, ça ajoute à la dimension, je dirais, quasiment religieuse. Ça y est, c'est le sauveur, Jésus revient, Steve revient. Il remet la marque sur les rails, elle redémarre, et après ça dure plus d'une dizaine d'années. Il revend des produits, et on arrive à la conclusion, c'est que finalement aujourd'hui, Apple vit toujours, même après la mort de Jobs en fait, sur l'aura, sur l'image, et là on rentre dans la dimension mystique et religieuse.
Ouais, c'est une marque très incarnée.
Et on va le voir, et justement, la marque peut-elle survivre à Steve Jobs, oui, depuis 3 ans, mais pendant combien de temps encore? On va voir ça. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
The apple is the forbidden fruit.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
The apple.
Le mythe Steve Jobs, c'est ce que l'on vous fait découvrir ce soir sur RTL avec David Bruna et Antoine Dubuquois qui publient un livre sur le cofondateur d'Apple aux éditions Les Belles Lettres. On va parler maintenant plus précisément du roi de la communication, on l'a évoqué mais rapidement. Tiens d'ailleurs, le look, on n'en a pas parlé, le look Steve Jobs là, c'est quoi? C'est jean, basket, pull noir col cheminée, c'est ça, si je me souviens bien.
Ouais, tout à fait.
Alors, c'est quand ça? C'est pas au début. Ça vient quand?
Non, c'est en 97 en fait à peu près. C'est le retour de Jobs en fait. Mm-hmm. Retour de Jobs, il a trouvé son style et quelque part ça va aussi accompagner tous les codes en fait qui permettent d'identifier facilement la marque, que ce soit la pomme blanche, que ce soit après vous savez les écouteurs blancs mm-hmm. aussi qui accompagnent l'iPod, donc c'est voilà les iMac aussi colorés, il y a aussi ça, donc ça fait partie aussi de la scénarisation, c'est qu'on sait que quand on va assister à la présentation d'un nouveau produit, le personnage Steve Jobs va entrer en scène et il va être totalement identifiable immédiatement. Voilà. Et effectivement, ce look va le poursuivre. Et finalement, ça va faire partie de l'iconographie Apple sur les 10 années en fait qui vont suivre.
Mmh. Et c'est un look simple. Hein, c'est pas du tout baroque. Voilà. C'est très dépouillé.
Ben, on retrouve
très
la sobriété de la marque en fait.
Voilà. La sobriété de la marque, la sobriété de parole. Il utilise des mots simples et il a un jean. Il a des choses très simples qu'on peut trouver dans le commerce. C'est, pas, c'est faussement cool, mais c'est...
Oui, les pulls, c'était quand même un créateur un peu connu qui lui avait fait des pulls,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'était qui, vous en souvenez?
Tout à fait. C'était c'est une marque américaine qui les a réalisés sur la base d'un modèle japonais. Il avait fait un voyage au Japon dans les années 90 et il avait trouvé c'était un grand créateur dont le nom m'échappe.
Oui, c'est pas grave, mais dont il n'était pas allé chercher le plus.
Il voulait offrir un uniforme pour les salariés d'Apple. Il a soumis l'idée à ses collaborateurs qui ont poussé les hauts cris. Donc il s'est dit, je vais le garder pour moi. D'accord. Et c'est devenu sa marque de fabrique à lui, alors que ça aurait pu être un uniforme pour l'ensemble des salariés
avait,
du groupe.
Il y avait quand même un peu de démocratie et chez Apple. Quand même.
Il a fait, absolument. Et il arrivait qu'on prenne le contre-pied de ses envies, de ses projets. Ouais. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un style qui s'est perpétué chez certains de ses successeurs, puisqu'aujourd'hui Tim Cook,
le nouveau
quand
patron
il arrive
d'Apple,
sur scène, le nouveau patron d'Apple, il est un peu comme lui, jean, chemise, un look cool.
Et tous les patrons des boîtes informatiques, Zuckerberg, c'est pareil pour Facebook,
avec la capuche, ils ont tous ce signe immédiatement
reconnaissable.
Immédiatement reconnaissable.
Ouais, le patron devient une partie de la marque et une icône lui aussi. Ça. Alors c'est lancement de produits, on va quand même au moins une fois citer le principal concurrent Samsung, il pèse plus sur le marché mondial qu'Apple, et pourtant dans les médias, notamment français ou occidentaux, quand Samsung lance un produit, on en parle moins. Pourquoi?
Parce que c'est une marque qui est perçue comme beaucoup plus utilitariste, qu'en fait la force d'Apple, c'est d'avoir réussi à vendre des produits chers, en plus dans des boutiques qui sont, je dirais, calibrées comme des boutiques de luxe. Donc il y a toute une dimension aspirationnelle qui est extrêmement forte et qui est extrêmement calibrée. Et finalement, oui, Samsung, c'est moins cher. Certes, c'est peut-être plus performant, les batteries durent peut-être plus longtemps, ça je ne sais pas. En revanche, c'est vrai que ça ne véhicule pas, en fait, la même dimension magique, aspirationnelle. Et ça, c'est le génie de communication de Jobs et de la marque Apple, c'est d'avoir réussi à vendre, en plus de la techno et de la performance, le rêve, c'est...
C'est-à-dire à faire croire aux journalistes que le lancement d'un produit Apple, c'était un titre dans le JT, quoi, c'est ça?
À faire croire pas uniquement aux journalistes, c'est-à-dire que c'est...
Pas qu'un titre, c'est, plusieurs.
C'est à faire croire, en fait, à une communauté de fans absolus de la marque que la vie va changer, il va se passer un truc énorme. Et d'ailleurs, la preuve, quand il meurt, on le pleure comme... comme un gourou, comme une rockstar.
Mais c'est vrai qu'il a changé nos vies. Ce sont des produits qui ont modifié notre comportement au quotidien. Ça, on ne peut pas le nier.
Absolument.
Absolument.
Le lancement d'un produit Apple, Steve Jobs...
Ah c'est des queues devant les Apple Store.
C'est ça. Et puis, c'est aussi des fuites, en général, dans les semaines qui précèdent. David Bruna, c'est orchestré par Apple, ça? Parce que vous nous disiez tout à l'heure, Antoine Dubuquois, que c'était une marque hyper verrouillée ou le culte du secret. Donc forcément, c'était eux qui étaient à l'origine des fuites, non?
Il y a plusieurs approches. À la fois, on a pu constater, par exemple, que les fans de la marque essayaient toujours de savoir ou de deviner ce qu'allaient être les nouveaux produits. Et ce qui est assez drôle, par exemple, l'iPad, jusqu'à la dernière minute, les fans de la marque écrivaient sur les blogs, sur les forums, que ça s'appellerait l'iSlate. Ils en étaient sûrs et certains. Il y a des types qui sont allés aussi, qui ont récupéré des copies de bons de commande de microprocesseurs d'usines chinoises en disant, voilà, a priori, ça c'est le fournisseur d'Apple. Donc, d'après ce qu'on peut savoir des performances de cette puce, on peut en déduire quelles vont être les performances du prochain produit. Mmh. Alors, donc, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, il y avait beaucoup de fantasmes de la part des fans.
Ça fait partie du mythe. Hein.
Voilà. Il y a des iPhones, il y a aussi des iPhones égarés. Là aussi, c'est un type qui égare son prototype d'iPhone sur une table de bar. Bon.
Ça, on a du mal à y croire, ça.
Ouais, on a du mal à y croire, mais ça fait partie aussi de la légende. C'est ça qui est intéressant. C'est finalement, le fan, il va finalement croire ce qu'il a envie de croire. Et là, en l'occurrence, il aura quand même la surprise parce que d'une certaine façon, la vérité que va lui présenter la marque sera jamais exactement ce qu'il a fantasmé.
Et parfois et l'art de la communication, c'est de créer le désir, effectivement, de faire monter le désir. Mmh. Et la communication, selon Jobs, c'est de la simplification, c'est de la répétition et c'est de l'orchestration de fuites bien organisées.
Ouais. Alors, est-ce que la marque peut survivre à Steve Jobs?
Elle a survécu.
Question.
Il est mort. Oui. Le mythe est encore vivant.
Mais ça va durer combien de temps?
Alors ça, on ne lit pas dans la boule de cristal. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui, la marque est encore extrêmement rentable. Et si vous regardez tous les indicateurs économiques, la valeur de la marque est aujourd'hui absolument considérable. C'est aujourd'hui, selon les spécialistes, il y a une étude qui vient de paraître d'Interbrand, c'est la marque la plus valorisée au monde. Le prix, la valeur de la marque, en tant que telle, vaut plus de 118 milliards de dollars. Ouais. Une autre étude d'un grand cabinet de stratégie indique pour la 10e année consécutive que c'est le groupe le plus innovant au monde. Le groupe le plus innovant au monde. C'est vrai en 2014, comme ça l'était de son vivant. Mmh. Donc c'est une marque qui fait fleurir son héritage, qui vit naturellement sur la figure de Jobs, sur le mythe, mais qui continue à développer des savoir-faire, des usages et l'envie d'acheter ces produits.
Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Dubuquois et David Brunat. Je rappelle que votre livre Steve Jobs, figure mythique, est publié aux éditions Les Belles Lettres.
Vous écoutez RTL.